Africa connexion avec Aïssa Tia.
Allons-y à présent avec notre dernière invitée de la matinée qui nous rejoint depuis Paris au téléphone d'Africa Radio, Jean-Célestin Edjangé est avec nous. Il est journaliste, conférencier, il est consultant en médias et communication, il est aussi auteur, originaire du Cameroun. Merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio, Jean-Célestin Edjangé. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bienvenue.
Je vous entends très bien, Aïssa. Et puis, merci à vous de me recevoir et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci de nous rejoindre, puisque justement, vous avez rallié le collectif de médias et d'agences de communication mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour mener une campagne de sensibilisation à travers des publications régulières, des publications d'informations utiles et des recommandations pédagogiques sur le Covid-19. Depuis le début de la crise, dans chaque pays d'Afrique, le continent a relayé, diffusé, expliqué de manière pédagogique et ludique les messages de sensibilisation sur les gestes barrières, la distanciation sociale, le confinement, les plans de prévention et de gestion des risques. Alors racontez-nous tout d'abord, Jean-Célestin Edjangé, ce qui vous a motivé à rejoindre le mouvement.
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à rejoindre ce mouvement ? Quand j'ai été contacté en tant que journaliste et notamment du correspondant Europe du quotidien camerounais Le Messager, j'ai été contacté par les initiateurs de ce projet qui m'en ont parlé et qui m'en ont expliqué assez largement. Et j'ai trouvé que leur démarche était intéressante, salutaire, dans un continent où, si vous l'avez bien suivi, et je n'en doute pas, beaucoup prédisaient le chaos, voire que beaucoup de pays allaient être rayés de la carte du monde. Et donc, je me suis dit, une telle initiative qui vise justement à mobiliser l'ensemble des médias africains, mais aussi des Africains de la diaspora, mais qui travaillent pour ces médias-là, à non seulement apporter leur pierre à l'édifice pour permettre justement à ce que nos frères et sœurs qui sont restés sur le continent, dans nos différents pays, puissent à la fois avoir une information idoine, mais aussi qui puisse être responsabilisée davantage, qui puisse être mobilisée, comprendre que c'est pas un jeu, la Covid n'est pas un jeu, ce coronavirus est terriblement mortel et qu'il ne faut pas jouer avec. Il faut donc prendre les mesures barrières très au sérieux, se laver régulièrement les mains, porter le masque, respecter la distanciation physique et pour que justement on puisse en quelque sorte limiter, à défaut d'endiguer, la propagation du virus. Encore une fois, que l'OMS en particulier annonçait dramatique.
Mais la situation est quand même à surveiller, hein, puisque selon les derniers chiffres du 21 juin, dans les 54 États membres de l'Union africaine, on compte 298 370 cas, 7944 décès, 143 440 personnes guéries de la maladie, les pays les plus touchés étant l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, par exemple. On constate quand même ces dernières semaine une évolution assez conséquente des cas et surtout que l'OMS par exemple annonce aujourd'hui que l'Afrique qui a été relativement épargnée comme vous le disiez risque d'être balayée par la pandémie dans les semaines à venir. Quel est votre sentiment à ce sujet?
Alors c'est la même Organisation mondiale de la santé encore une fois qui dès fin février début mars prédisait le pire pour l'Afrique. Alors c'est vrai que l'Afrique s'en sort mieux. Et s'en sort pas mal. Et c'est aussi vrai qu'il faut rester extrêmement prudent.
Ouais.
Mais rester prudent ne veut pas dire faire du catastrophisme. Ça ne veut pas dire véhiculer des idées mortifères ou alors qui font peur à tout le monde. Il faut tout simplement que les gens se responsabilisent, qu'ils prennent conscience de l'enjeu, qui encore une fois en vaut vraiment la peine, de se protéger soi-même et par conséquent se protéger les uns des autres. Il n'y a pas besoin de tirer plus fortement qu'on le fait déjà la sonnette d'alarme sur l'Afrique qui court à la dérive par rapport à ces maladies. Les différents gouvernements africains, je pense, ont su anticipé justement des choses.
Oui.
Ils n'ont pas eu besoin seulement des injonctions de l'OMS, même si ces injonctions ont probablement aussi accéléré la prise de conscience. Ces gouvernements, ils ont pris des mesures, mais fortes. Vous imaginez un continent comme l'Afrique où on demande aux gens d'être confinés, où on décrète un couvre-feu pour une population qui, à longueur de journée, ou j'allais dire à longueur de temps, est éprise de liberté et a envie de vivre sa vie, ouais. Aller voir dans les bars et tout ce qu'on veut. Et on lui dit non, à partir de telle heure, jusqu'à telle heure, vous ne pouvez plus. Bon, ça a été des mesures extrêmement difficiles à accepter. Elles ont été plus ou moins. Et le résultat est là, c'est que le continent est aujourd'hui, effectivement, l'un des moins touchés, on peut le dire, par rapport à tous les autres continents. Mais encore une fois, il faut rester extrêmement prudent,
ouais.
Parce que c'est une maladie. On se rend compte, c'est un virus. Même les plus grands scientifiques ne maîtrisent pas. Vous voyez, ils ne savent pas, chaque jour apporte son nouveau lot de révélations. On apprend, à un moment donné, on nous avait dit que les enfants étaient extrêmement contaminants. Et après, on a dit le contraire. Aujourd'hui, on se rend compte que non, ils ne sont pas du tout contaminants, enfin, ils sont moins possibles. Et on nous avait dit à un moment donné que ceux qui en souffriraient le plus ou qui mourraient le plus facilement, c'était les personnes d'un certain âge. Ça reste vrai, mais on se rend compte aussi que c'est un virus qui tue à tout âge.
Mm.
C'est un virus qui tue à tout âge, il n'y a pas d'âge. On nous a dit à un moment donné que quand on était riche, on était moins touché. Oui, on était peut-être moins touché, mais on n'est pas complètement épargné. Et c'est vrai que ce virus-là a introduit aussi une notion d'inégalité, en quelque sorte,
ouais.
Entre les pays riches et les pays pauvres, entre les gens qui sont dans des villas bien cousues, et avec jardin et compagnie, et ceux qui vivent dans des HLM, parfois à plusieurs, dans une pièce d'à peine 10 mètres carrés, c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes, et que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un suivi sanitaire, un suivi médical important, ils sont exposés. Vous avez vu les chiffres, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qui a été considéré comme le département ici en France, en tout cas en Île-de-France, le plus touché,
oui.
par cette pandémie, où il y a eu effectivement beaucoup plus de morts que dans le reste de la région, parce que justement, c'est un département qui souffre des infrastructures médicales, qui souffre du suivi. Hein, les populations souffrent du suivi médical. Et voilà, il y a forcément une inégalité. Alors, l'Afrique est considérée comme le continent qui est l'un des plus pauvres au monde, mais c'est un continent aussi qui regorge de ressources, d'initiatives, de créativité. Et je pense que tout cela a pu permettre aussi joint au fait aussi que des maladies comme le paludisme, la malaria et tout ça là, c'est des maladies avec lesquelles les Africains en particulier vivent,
oui.
Traditionnellement et qui ont pris l'habitude aussi de prendre des médicaments pour se prémunir ou alors pour essayer de combattre les maladies. Peut-être que ces effets aussi collatéraux ont pu jouer pour permettre à la population africaine en général de s'en sortir un peu mieux par rapport à la Covid.
Alors justement, cette pandémie a eu d'importantes conséquences sanitaires, au-delà de ça, des conséquences sociales, culturelles, environnementales, politiques aussi. Alors on va voir avec vous quelles sont les conséquences globalement sur l'économie africaine.
Oui, c'est des conséquences qui sont terribles pour un continent, effectivement, où l'économie, c'est vrai, tire le reste de l'économie mondiale. Il faut quand même le rappeler que c'est le continent qui, depuis plus d'une dizaine d'années, hein, a un taux de croissance économique continu, qui est généralement plus fort que le reste des continents. L'année dernière, par exemple, je parle de l'Afrique subsaharienne, par exemple,
oui.
L'Afrique subsaharienne a réalisé un taux de 3,1% de croissance. La moyenne du continent était un peu en dessous de 3,1%. Mais vous savez que l'Europe, par exemple, peine à atteindre les 2% de croissance. Mais cette situation ne va pas rester en état, puisque la crise sanitaire va impacter assez lourdement, assez gravement l'économie africaine. Alors, le FMI nous dit qu'il craint, le Fonds monétaire international, qu'il craint une contraction d'environ 1,6% de l'économie, ce qui représenterait quand même une chute de quelques 5%, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, sur un an. C'est une crise qui est grave. Ça veut dire que les différents secteurs économiques qui sont touchés grandement, je pense au tourisme, je pense à tout ce qui concerne les hydrocarbures,
oui.
dont d'ailleurs, vous avez remarqué, les prix ont chuté de moitié depuis deux mois et demi, et des pays comme le Nigeria, qui vivent essentiellement des retombées des hydrocarbures, vont vraiment, vraiment en pâtir. Je parle du Nigeria, mais on pourrait parler de tous les pays du Golfe Guinée, hein. Le Congo, le Gabon, une partie aussi le Tchad, le Cameroun, tout ça, c'est des pays qui tirent des revenus importants, justement, des hydrocarbures. Alors, il y a le tourisme, il y a les hydrocarbures, mais il y a les matières premières, de manière plus générale,
oui.
Les matières premières agricoles. Comment expliquer à un agriculteur, à un paysan, qu'il faut rester chez lui, il ne doit plus produire, alors que lui, il n'a que ça pour vivre. C'est-à-dire que s'il ne produit pas, il ne vend pas, il ne peut pas vivre. Et vous imaginez donc que les pays qui ont maintenu le confinement, même si ça a duré que deux semaines ou trois semaines, d'autres continuent d'ailleurs à le faire aujourd'hui, ça a été une catastrophe économique pour ces pays-là, une catastrophe sociale aussi, même si ça a procuré en quelque sorte un bien en matière sanitaire. Voilà ce qu'on peut dire en matière de conséquences économiques. Il faut aussi dire que des secteurs comme le secteur aérien,
oui,
de beaucoup de pays sont complètement à terre. Hein. Je veux dire, il y en a qui ont repris des vols commerciaux petitement ces derniers jours.
Ça compte-gouttes, hein. Ouais.
Mais tu sais ça, mais d'une manière générale, la situation est très grave. Un pays, par exemple, comme le Cameroun, avec sa compagnie Tamerco, qui reste clouée au sol, avec plus de 200-250 salariés qui sont en chômage technique, c'est des drames pour des familles entières. Quand on est en chômage technique, c'est pas forcément comme si on était dans un pays où il y a des aides qui accompagnent.
Ouais.
Dans les pays africains, généralement, quand on est en chômage technique, on est en chômage et puis on ne perçoit pas grand-chose pour continuer à nourrir sa famille. Donc c'est quelque chose de très 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 important et très très profond. Il risque justement d'impacter longuement, pas seulement lourdement, mais longuement,
oui,
les économies des pays africains. Alors, il y a toujours une solution à un problème, en tout cas un début de solution, bien sûr, les États ont pris beaucoup de mesures aussi pour... il y a des plans qui ont été adoptés pour apporter le soutien aux secteurs économiques qui sont les plus touchés. Il y a aussi la coopération internationale.
Est-ce que ces plans d'aide aussi arrivent à destination des plus nécessiteux?
Alors, on peut se poser la question, mais d'une manière globale, c'est des plans qui arrivent via l'État, bien sûr, et qui arrivent, tant bien que mal, à faire bénéficier aux populations. Je dis tant bien que mal parce qu'effectivement, dans cette situation comme dans bien d'autres,
ouais,
il y a toujours des détournements des aides qui n'arrivent pas toujours à bon port. Mais on peut pas généraliser. Je pense que globalement, les aides promises et les plans qui ont été adoptés sont appliqués et les choses arrivent globalement à bon port.
Alors, vous parliez tout à l'heure des inégalités. Selon l'Institut Brookings, l'Afrique est la dernière frontière du monde dans la lutte contre l'extrême pauvreté, où un Africain sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté mondiale. Est-ce que la pandémie a encore plus creuser l'écart de ces inégalités sur le continent, selon vous ?
Alors, c'est quelque chose de terrible parce que c'est un continent, on a l'impression qu'il est à la fois béni des dieux parce que potentiellement, c'est probablement le continent le plus riche au monde. Potentiellement, encore une fois. C'est un continent qui dispose de 40% des réserves en matière d'or, de plus de 10% des réserves pétrolières du monde, de 90% de cobalt. Enfin, on pourrait en citer tant et tant d'autres matières premières dont le sous-sol africain regorge. Mais malheureusement, on a l'impression que ce potentiel a du mal à être transformé en réalité. Et quand vous dites que le Covid ne risque-t-il pas d'aggraver les inégalités,
ben ouais.
Bien sûr qu'il risque de les aggraver. Je pense qu'il les a déjà aggravés parce que ceux qui n'arrivaient pas déjà à manger avec 1,25 $ par jour, c'est la définition de seuil de pauvreté,
ouais.
Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à manger maintenant que certains ont été confinés, les parents qui pouvaient produire ou avoir quelque chose à la fin du mois pour nourrir la famille n'ont pas pu travailler puisque les machines sont en arrêt. Les sauveteurs, vous savez, les fameux Bayern Selam, qui déambulent avec leurs marchandises pour essayer d'avoir un petit pécule quotidien et nourrir eux aussi la famille, ils n'ont pas pu le faire normalement. Donc, c'est autant de choses qui vont faire qu'effectivement la pauvreté va augmenter, mais elle va d'autant plus augmenter qu'il y a une autre question qui est corollaire, c'est la question de la famine.
Ouais.
Vous voyez comment depuis plusieurs mois, il y a là aussi des sonnettes d'alarme qui sont tirées, il y a des centaines, des milliers d'Africains qui sont menacés de famine. Et pendant qu'on parle de la Covid, on ne fait pas trop attention à cette autre pandémie qui est encore plus grave que celle de la Covid. La famine. Moi, me reviennent les idées et les images de 1984-1985 en Éthiopie.
Ouais.
Dieu merci qui n'est plus tout à fait le même pays aujourd'hui, qui a retrouvé une autre force et une autre stature. Mais en 1984, ces enfants qui étaient chétifs, avec la peau des os collée à même le corps, c'est des images qui sont terribles. Et pourtant, le continent, c'est pas un potentiel qui manque. C'est pas les terres agricoles qui manquent, c'est pas les matières premières, je viens de le dire, qui manquent. Alors, que faut-il faire? Est-ce que ceux qui sont aux commandes des responsabilités font tout ce qu'il faut pour que justement tout ce qui est de potentiel puisse être transformé en réalité et que les fils et les filles du berceau de l'humanité puissent vivre dignement? Je n'en suis pas sûr. Il faudrait que, au-delà de ceux qui sont dirigent, que chacun se sente concerné, que la population, la société civile se mobilise pour apporter le soutien et le secours à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ça aussi que nous essayons de faire à travers le collectif Protégeons-nous, parce qu'en apportant la bonne information,
en
mobilisant les populations, en les sensibilisant sur les urgences du moment, ça peut aussi permettre effectivement d'amener tout le monde à tirer dans le même sens.
Jean-Célestin Edjangué, je rappelle que vous êtes journaliste, conférencier, consultant en médias et communication. Vous êtes également auteur, vous êtes originaire du Cameroun. Et d'ailleurs, un petit mot sur vos deux derniers ouvrages parus en janvier 2020 chez l'Armatan Paris. Le premier, Jeunes d'Afrique, Jeunes du Monde, les combats de tous les espoirs. Et un autre, un ouvrage sur la protection de l'environnement en Afrique intitulé Urgence climatique et développement en Afrique, les médias en première ligne. Donc des livres que les éditeurs peuvent toujours se procurer sur Internet. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, conférencier, consultant en médias et communication. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous représenter comme ça en quelques mots, Jean-Célestin Edjangué?
Ben, qu'est-ce que je peux dire? Ben, effectivement, je suis journaliste, depuis journaliste déjà, et consultant en communication, vous l'avez dit, puisque j'aide beaucoup de pays d'ailleurs, hein, à améliorer leur médias, je pense les médias comme les supports de télévision, les presse écrites, où je fais un accompagnement là-dessus. Et je suis bien sûr aussi, vous l'avez dit, auteur. Je m'intéresse depuis plus de 15-20 ans maintenant aux questions de gouvernance, de manière plus générale en Afrique, mais spécifiquement les questions de jeunesse et les questions de protection de l'environnement. La jeunesse, pourquoi ? La jeunesse parce que tout le monde le dit comme une ancienne, c'est l'avenir, c'est le fer de lance et tout, mais les gens oublient que plus de 50% de la population mondiale a moins de 30 ans. Là, je ne parle pas seulement d'Afrique. À l'heure où je vous parle, plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Et quand vous regardez les gouvernements du monde entier, il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont moins de 30 ans dedans. Il faut même aller du côté de l'Arabie Saoudite pour trouver une femme ministre. Elle a été nommée ministre, elle avait 23 ans. Aujourd'hui, elle en a 25. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui gouvernent, ils ne gouvernent pas pour cette moitié de la population qui a moins de 30 ans. Ils gouvernent, on sait pour qui. On devrait avoir plus de jeunes, plus de gens qui ont moins de 30 ans à cohabiter avec ceux qui ont plus. Je ne fais pas du jeunisme. Mais c'est une question de réalité gouvernementale. On ne peut pas avoir un pays réel qui est différent d'un pays imaginaire. Il faut que le fait que toute la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans puisse se répertorier, se retrouver en quelque sorte dans les différents gouvernements. On doit avoir plus de jeunes dans les gouvernements. Surtout à une période où tout le monde reconnaît qu'ils sont jeunes, mais ils sont de plus en plus diplômés. Et ils sont de plus en plus diplômés plus tôt. On ne peut donc pas nous dire que c'est parce qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont rien dans la tête, qu'ils ne savent rien faire. C'est tout simplement de la contre-vérité. Encore une fois, je ne fais pas du jeunisme. Mais je dis que si on tenait compte de cette réalité-là, en faisant une promotion de cette jeunesse qui a des capacités, qui a des compétences, en mélangeant avec ceux qui sont plus âgés, mais qui ont des compétences aussi, je pense que le monde ne s'en porterait pas plus mal.
Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour les auditeurs d'Africa Radio, Jean-Célestin et Jean Gué. Je rappelle que vous avez rejoint le collectif de médias et d'agences de communication africains autour du slogan « Protégeons-nous, stop Covid-19 ». Il y a une page Facebook dédiée d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette initiative. Merci beaucoup Jean-Célestin et Jean Gué. On vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
À bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci, au revoir.
She's so insecure, she don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure.